Bonjour à tous, vous allez bien? Vous avez passé une bonne semaine? Alors certains oui, d'autres pas trop, ou alors juste en réflexion, mais en tout cas une chose est certaine, c'est que si vous êtes là, c'est un effet de la grâce de notre Dieu. Amen. Et nous bénissons le Seigneur pour sa présence au milieu de nous encore ce matin. Et sans plus tarder, on va partager ensemble la parole de Dieu avec un thème, un message que le Seigneur a mis sur mon cœur. C'est de l'impossible au possible. Et avec le Seigneur, souvent, c'est comme ça. De l'impossible au possible. Pourquoi le rappeler ? Parce qu'en fait, il peut arriver que dans nos vies, à un moment donné, on reçoive une parole de Dieu, on prenne les paroles de la parole de Dieu, de la Bible, et puis le Seigneur nous parle à travers elle, et puis à un moment donné, il y a comme un espoir que le Seigneur va agir promptement. Et puis le temps passe. Et le temps, il fait une œuvre dans notre cœur. Le temps passe et il se peut qu'on oublie les promesses que le Seigneur nous a faites, et des fois même qu'on puisse oublier que Dieu est le Tout-Puissant. Amen. Donc, de l'impossible au possible. Peut-être que ce matin, quelqu'un est au milieu de nous, et il y a comme une impossibilité dans sa vie. Des choses à laquelle vous pouvez vous retrouver même dans une situation d'impasse avec un besoin urgent que le Seigneur vous parle. Alors j'ai une bonne nouvelle ce matin, c'est que si vous êtes attentif, il y aura une parole pour vous ce matin. Alléluia, pour retrouver ce chemin de la foi et de dire avec Dieu c'est possible, amen, que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Un verset d'introduction. C'est un verset que je cite régulièrement dans mon temps personnel, dans mon culte personnel à Dieu. C'est Éphésiens chapitre 3 et le verset 20. Éphésiens 3, verset 20. Ce verset peut que nous encourager, hein, finalement, quand on voit que ici l'apôtre Paul il dit aux Éphésiens, ce qu'il faut savoir, c'est que la lettre aux Éphésiens, c'était une lettre, une circulaire à laquelle tout un territoire devait pouvoir lire cette lettre. Ce n'était pas adressé simplement qu'à une église, à un endroit, mais c'était tout le contour où on devait finalement partager cette lettre. Et il dit ceci, « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, alléluia. » Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui a déjà expérimenté ces choses-là ? Quelqu'un, on peut se... Voilà, on est au moins 7, 8, 10, 20. On est nombreux, hein. Parce qu'en fait, c'est comme ça que le Seigneur, il agit et il procède. Ce verset nous dit, « Or, à celui qui peut faire. » Et le Seigneur veut faire une œuvre dans nos vies. Il poursuit toujours cette œuvre, d'abord, de nous éclairer. Ce matin, nous sommes rentrés dans la communion ensemble en tant que peuple de Dieu, parce qu'un jour, nos yeux se sont ouverts finalement à qui était Dieu, parce que le monde nous avait proposé un Dieu lointain, froid, distant, et puis on a découvert que c'était un Dieu proche, rempli d'amour, et il s'inquiétait de chacun d'entre nous. Et ça a bouleversé notre cœur. Il avait même prévu un moyen de pouvoir nous sauver, parce que la Bible nous dit que nous sommes perdus sans sa grâce. Il est venu nous éclairer. Alléluia. Alors le Seigneur, il peut faire. Donc ça nous montre qu'il a la capacité de faire par la puissance. Et je crois de tout mon cœur que le Seigneur a une puissance extraordinaire, même insoupçonnée, pour la plupart d'entre nous. Dieu est capable de faire des choses merveilleuses. On le retrouve partout dans la parole. On va le voir ensemble. De la puissance, le Seigneur en a en réserve. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Dites-moi, il en faut de la puissance pour, au son de sa voix, créer l'univers. Et cette semaine, justement, je pensais à cela. Et je me disais, mais quand même, tout est bien coordonné. Hein, quand on voit comment l'univers a été créé, l'homme, la femme a été créé, ne serait-ce que, je réfléchissais, je me disais, au niveau de la main, Quand même, tous les doigts sont à leur place. Hein. Imaginez-vous si il y avait le pouce de l'autre côté, on serait bien en difficulté. Mais en tout cas, le Seigneur, il sait ce qu'il fait avec chacun d'entre nous. Et au son de sa voix, il va créer les cieux et la terre. Donc, ça nous montre qu'il a tellement de puissance qu'il n'y a aucune situation dans laquelle il ne puisse agir. Il dit, par la puissance qui agit en nous. Et le Seigneur veut agir en nous encore et toujours. Donc par cette puissance, il peut faire infiniment au-delà. Je ne sais pas infiniment comment on peut le quantifier en fait. Infiniment, il peut faire infiniment au-delà. Ça sous-entend qu'à un moment donné, on a confiance en Dieu, on sait qu'il va agir donc d'une certaine manière. Et ce verset nous dit, même si tu as de l'imagination, le Seigneur peut faire au-delà de tout ce que tu peux demander, même ou penser. Alors, c'est un verset qui va nous encourager. Mais quand même, on pourrait se dire, l'apôtre Paul, il est en train de faire une annonce, donc au travers de ce verset, de ce passage, une annonce extraordinaire en disant, ben, le Seigneur, il est capable de faire des choses extraordinaires, mais lui, pour lui, tout semble aller bien. Si on lit le contexte de ces paroles, on va les lire, Éphésiens, chapitre 3, verset 1, il dit la raison où il se trouve à partir de ce moment-là, lorsqu'il a écrit à partir du verset 20. Il dit, à cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous, païens. Moi, Paul, prisonnier de Christ, cet homme qui est en train d'écrire, mais Dieu peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, il est, en fait, il était un prisonnier. Prisonnier, non pas qu'il avait fait un crime terrible, horrible. Son seul crime, c'est d'avoir donné sa vie au Seigneur. Il a eu une révélation de qui était Dieu, parce que lui, il pensait, au travers de sa religion, servir Dieu, et puis le Seigneur l'a arrêté. Il y a toujours cette particularité lors de sa conversion, acte chapitre 9, qui m'interpelle hein, de savoir que quand il va être arrêté sur le chemin de Damas, le Seigneur va l'appeler par son prénom. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Ce qui sous-entend que le Seigneur nous connaît. Et il nous connaît, chacun d'entre nous, tous ceux que nous sommes là ce matin, il nous connaît parfaitement. Alléluia. Donc cet homme, il dit, ben, vous savez, à cause de cela, à cause de ma foi, ce qui sous-entend son appel au ministère, un appel puissant. Hein, le Seigneur va lui dire, il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Et puis le Seigneur va l'encourager. Et nous, on pense que dès qu'on tourne un peu la page de sa conversion, que de suite il est rentré, en train de proclamer l'évangile. Le Seigneur, vous savez où il va l'amener ? Certains, vous le savez évidemment, pour la plupart, dans le désert. Parce qu'il va le former. Et on a besoin de formation. Tous, chacun d'entre nous, besoin d'être formé par le Seigneur. Mais pour que nous soyons formés et que Christ soit formé en nous, il faut impérativement se laisser travailler par le Seigneur. Et c'est là où ça se complique pour la plupart de nous, avec nos résistances, nos incompréhensions, et puis finalement ce que nous sommes. Nous sommes des hommes où nous, on aime bien donc savoir ce qu'on va faire, on planifie, mais avec le Seigneur, c'est une marche par la foi. Le Seigneur nous demande simplement, toi, suis-moi. Et quand on place notre confiance dans ce Seigneur, alors à cause de cela, il va dire, à cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ. Cet homme se retrouve en prison à cause de sa foi, le prisonnier de Christ pour vous, païen, je bénis Dieu que Dieu ait pu interpeller à un moment donné un homme comme l'apôtre Paul parce que c'est par le biais de son ministère que ce matin nous sommes là. Des fois on aurait tendance à l'oublier. Le Seigneur l'a interpellé, un appel spécial dans sa vie. Il avait certaines qualifications et d'ailleurs ces qualifications, et c'est là où on voit toute l'humilité de la conversion, ce que la conversion apporte dans un cœur, c'est l'humilité. Il va dire, mais en fait moi ces choses-là, je les regarde comme de la boue. Alors Monsieur Second, qui a interprété ce passage, il a voulu rester poli et correct. Quand il dit « je les regarde comme de la boue », il a voulu rester poli. En fait, c'est autre chose comme mot. On le comprend tout à fait. C'est comme, voilà, il regarde les choses comme des excréments. Parce qu'en fait, il voulait comme choquer au travers de ces paroles qu'il est en train de dire. En fait, il dit « mais ces choses-là, je les regarde comme de la boue » parce qu'il a découvert quelque chose de tellement merveilleux. Servir le grand Dieu de l'univers. Amen. Je disais cela à quelqu'un ce matin, et c'est vrai que le Seigneur, il appelle chacun d'entre nous à le servir. Avec nos propres capacités, finalement notre disponibilité, puis le Seigneur, c'est lui qui qualifie au fur et à mesure, alléluia, que le Seigneur soit béni. Le prisonnier de Christ pour vous, païens, Paul a écrit ce livre pendant qu'il se trouvait en prison, où ça, à Rome. Il écrit en disant, ben, le Seigneur peut faire au-delà de ce que l'on peut penser ou imaginer. Et cette histoire, on la retrouve dans Actes chapitre 16. Actes chapitre 16, on s'aperçoit que Paul était persuadé que Dieu pouvait le sortir de prison. Il en était même pleinement convaincu parce que donc dans cet épisode de Actes 16, donc ils vont être en prison et la seule raison, c'est parce qu'il va y avoir un soulèvement de la foule. Et ça, c'est terrible. Parce que c'est ce qu'il disait, il y avait une nouvelle doctrine là qui émergeait. Et en fait, il voulait simplement que ces choses-là s'arrêtent. Soulèvement de la foule. Même, regardez la violence. Si vous regardez le contexte de ces paroles, vous allez vous apercevoir que la foule va arracher les vêtements même de l'apôtre Paul et de Silas, Sylvain, et vêtements arrachés, ils vont les charger le cou et puis les jeter en prison. Comme je disais tout à l'heure, leur seul crime, c'est d'avoir accepté Jésus-Christ dans leur cœur. Dans Actes 16, verset 25, il est dit, vers le milieu de la nuit, ces deux hommes qui étaient en prison, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Il y a une telle puissance dans ces versets qui se dégagent et que nous devons absolument comprendre ce matin. Vers le milieu de la nuit, à un moment donné, à un moment précis, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ne se lamentaient pas, comme on peut l'entendre des fois. Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi ces choses-là m'arrivent? Seigneur, je ne comprends pas. Alors, ça ne veut pas dire que ça soit interdit de pouvoir poser des questions au Seigneur. Mais eux, ils avaient une pleine confiance dans le Seigneur. Ils priaient et chantaient. Amen. Je ne sais pas ce qu'ils chantaient. Je serais bien curieux quand on va se retrouver là-haut. J'irai voir l'apôtre Paul. D'ailleurs, j'ai plusieurs questions à lui poser. Plusieurs. Et notamment celle-ci. Paul et Silas, qu'est-ce que vous chantiez? Ça serait intéressant, hein, n'est-ce pas, Jonathan, pour la louange, pour pouvoir nous inspirer. Comment et qu'est-ce qu'ils chantaient? En fait, une chose est certaine, on ne le sait pas, la Bible ne le dit pas, mais une chose est certaine, c'est qu'ils glorifiaient Dieu. C'était une louange qui élevait notre Seigneur et qui disait la grandeur de notre Dieu, ce qui prouve qu'on peut être en prison, on peut vivre des situations compliquées, et quand même avoir un cœur pour louer, célébrer le Seigneur, alléluia. Des fois, il faut évidemment le dire parce que quand on traverse des situations compliquées, alors pas tous, mais vous savez que dans les églises où j'ai été, rien qu'au regard, quand le frère ou la sœur passait le pas de la porte, je me disais, aïe, 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 il y a un souci. Parce que ça se voyait physiquement. Et là, eux, ils sont en train de prier et de chanter les louanges à Dieu. Et j'aime beaucoup la suite où il dit « Et les prisonniers les entendaient ». En fait, alors qu'eux vivaient leur relation avec le Seigneur qui les avait appelés, ils étaient en train de témoigner de leur confiance à Dieu. Et les gens les entendaient. Que Dieu fasse que les gens que vous côtoyez entendent le chant qu'il y a dans votre cœur et dans votre vie. Amen, que le Seigneur soit béni. Vous savez, quand le Seigneur nous sauve, ce qui va venir spontanément, c'est la joie dans nos cœurs. Le peuple de Dieu est un peuple joyeux. Alléluia. Amen. Et vous savez que pour voir quelqu'un qui est joyeux, il n'y a pas 50 façons de le voir. C'est des sourires jusqu'à là. Et j'ai été au contact de personnes traversées des situations financières, situations matérielles, donc difficiles. Mais ça n'altérait pas la joie qu'ils avaient dans leur cœur, alléluia, d'avoir découvert le Seigneur et ils le faisaient confiance. Et c'est là où le Seigneur veut nous amener, à ne pas dépendre des circonstances, mais à dépendre de lui seul. Amen, que le Seigneur soit béni. Vers le milieu de la nuit, ils ne pouvaient dormir. Pourquoi ? À cause de la douleur occasionnée par les coups qu'ils avaient reçus et les ceps aux pieds. Des fois, on aurait tendance à dire, ils étaient là, ils n'arrivaient pas à dormir, les insomnies. En fait, là, c'était par rapport à la douleur. On l'a vu, ensemble, ils ont été battus, maltraités, chargés de coups, jetés en prison. Mais eux, ils priaient et chantaient les louanges de Dieu. Amen. Je sais que hier, j'ai pris en cours, juste à la fin, Vincent a partagé sur la puissance de la louange. Et je crois qu'il y a une puissance dans la louange. C'est déjà arrivé à plusieurs d'entre vous. À un moment donné, on traverse des moments, des difficultés, des situations difficiles. Mais dans nos cœurs, on résolut quand même de se tourner vers le Seigneur et de le louer. Dire, Seigneur, j'ai confiance en toi. Je sais que tu vas agir d'une manière ou une autre. Moi, je dispose mon cœur à te louer. Il y a une puissance qui se dégage de la louange, alléluia, parce que Dieu siège déjà au milieu des louanges de son peuple, et quand on décide de louer le Seigneur malgré les circonstances, il n'est pas insensible, et le Seigneur agit, amen. Les prisonniers les entendaient, c'est ce qui nous parle de la communication de leur foi. Et le chrétien, en 2024, il est là pour communiquer à ce monde qui se meurt, à ce monde qui est loin de Dieu, qu'il y a une solution, qu'il y a quelque chose de mieux à vivre dans cette vie. D'ailleurs, moi je me suis posé la question, sûrement que vous aussi, dans la réflexion je me disais, mais c'est ça la vie. Est-ce que la vie c'est simplement naître, vivre et mourir? Il n'y aurait pas quelque chose d'autre? Et c'est là où le Seigneur finalement veut nous amener dans cette réflexion, pour nous faire comprendre que oui, il y a quelque chose. Et en fait, sans le savoir, on cherche Dieu. Et la Bible nous dit que quand on cherche Dieu, une chose est certaine, c'est qu'il se laissera trouver. Alléluia. Et nous l'avons trouvé, alors nos cœurs bondissent de joie et on veut le manifester. Amen. Mais ça, c'était le verset 25. La suite du verset nous dit, donc, et tout à coup, pendant qu'ils sont en train de chanter, acte 16, verset 26, tout à coup, pendant qu'ils sont en train de prier et de chanter, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. Que Dieu fasse qu'il y ait des tremblements déjà de nos cœurs. Que nos cœurs tremblent, alléluia, dans la présence de Dieu. En sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. De l'impossible au possible. Et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia, que le Seigneur soit béni. Alors quand on lit ce passage, ce verset, on se dit, mais à un moment donné, quand on rentre dans la louange, pour plaire à Dieu, dire, c'est ça la louange, hein, la louange c'est dire qui est Dieu, hein, il est grand, il est puissant, merveilleux, digne de louange, digne d'adoration, il est fidèle, il est juste, voilà, c'est tout ça la louange, ils sont en train de louer, et il est tout à coup, que Dieu fasse qu'au milieu de nous, il y ait beaucoup de tout à coup. Et tout à coup, le Seigneur, il vient nous faire trembler. Alors, pas trembler simplement en étant visité, ça on l'a vu, étant visité par le Saint-Esprit, voilà, une manifestation du Saint-Esprit, bon, il se peut que les gens tremblent, mais nos cœurs, faire trembler nos incertitudes, faire trembler peut-être notre incrédulité. Est-ce qu'un chrétien est incrédule, ça existe? Ben oui, hein. Ben oui. Donc, parce qu'on se focalise sur, c'est terminé, voilà, on passe à autre chose. Là, dans ce domaine-là, c'est impossible. Et si on ne le dit pas, mais on vit en tant que tel. Et le message de ce matin, c'est de pouvoir rallumer la flamme, dans nos cœurs, pour donc placer notre confiance encore dans le Seigneur et dire « Oui, avec le Seigneur, c'est possible. Alléluia. » Cette chose que j'avais fait un trait, j'avais tiré un trait dessus, avec le Seigneur, tout est possible. Amen. Un verset pour nous encourager. Philippiens 4, 13, vous le connaissez celui-là. Philippiens 4, 13. « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Amen. Un des mots importants dans ce verset, c'est « Je puis tout. » Tout. Il n'y a rien qui soit impossible à notre Seigneur. En fait, ce que l'apôtre Paul n'a jamais voulu dire, c'est « Je peux devenir ce que je veux. » Pas d'ambition personnelle. Ce texte veut nous dire que je peux tout traverser. Je peux traverser les peines, et il y en a dans la vie. Je peux traverser les difficultés, et il y en a dans la vie. Je peux traverser les épreuves, alléluia, par celui qui me fortifie, alléluia. Et pour être fortifié, il faut venir dans sa présence, se jeter dans sa présence comme notre seul recours et dire « Seigneur, j'ai besoin d'être fortifié aujourd'hui plus que jamais. » Et vous savez quoi ? Le Seigneur le fait. Il vient fortifier nos âmes, traverser des moments difficiles. Alors oui, Dieu est le Dieu de l'impossible, ça c'est une réalité. On va voir quelques exemples où plusieurs personnes sont passées de l'impossible au possible. Luc chapitre 1, verset 34. Luc, là aussi, c'est un miracle extraordinaire. Luc 1, 34. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme ? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse et celle qui était appelée et stérile, et dans son sixième mois, car, verset 37, car rien n'est impossible à Dieu. Si ce n'était pas marqué dans la parole, on aurait du mal à l'imaginer. Une jeune fille qui est, dans sa sincérité, dans sa relation avec le Dieu vivant et vrai, reçoit une parole de la part de l'ange en disant « tu vas enfanter ». On comprend bien qu'un message comme cela est déstabilisant pour elle. Dans son cœur, elle a dû se dire, mais ce n'est pas possible, comment cela peut-il se faire? Et puis, il y a comme une conviction de la part de l'ange, il dit, mais tu es quand même une privilégiée de pouvoir porter le Fils de Dieu. Quel privilège elle a eu. Alors certains, dans d'autres religions, l'ont divinisé. Jamais de la vie, On respecte, évidemment, il y a un respect, parce qu'apporter le Fils de Dieu, mais ça s'arrête là, avec ses défauts, ses difficultés. Et donc, elle était comme chacun et chacune d'entre nous. Mais en tout cas, il y a ce verset 37, donc Luc 1, 37, « Car rien n'est impossible à Dieu. » Amen. Dieu est appelé le Dieu de l'impossible. Humainement, il y a des choses qui peuvent nous sembler impossibles. Comment croire dans la guérison? Après avoir tant prié, et des fois, on a déjà prié, et ça peut arriver, on prie, il n'y a rien qui se passe, on laisse tomber. Comment croire que ce qui est brisé aujourd'hui peut être restauré? Comment le croire? Comment les promesses de Dieu vont-elles faire pour atteindre et me procurer cette foi nécessaire? Comment rebâtir ce qui a été détruit? Tout simplement en plaçant notre foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. D'ailleurs, son premier message, et il va le dire quand il va arriver dans cette synagogue, où il va dérouler donc, le rouleau du prophète Ésaïe, il va dire que moi je suis venu pour ceux qui ont le cœur brisé. Pour restaurer, pour annoncer une année de grâce. Et le Seigneur le fait pour nos vies. Il a restauré nos vies. Nous étions à mille morceaux parce que la vie, elle va se charger de nous briser. Mais le Seigneur, lui, son ministère, son service premier, c'est de nous restaurer et nous donner la valeur initiale que nous avions avant la chute de l'homme. Ça, c'est extraordinaire. Et nous sommes donc réhabilités à venir dans sa présence. Alléluia. Tout ça, pourquoi ? Parce que Jésus-Christ a donné sa vie à la croix du calvaire. Il a expié nos péchés. Et il y a le psaume 32 qui dit « Mais ils sont heureux !» Ceux qui ont vécu cette expérience, c'est pour ça que je vais vous parler de joie. Alors, frères et sœurs, ceux qui ont été rachetés de la vaine manière de vivre, laissez-moi voir la joie dans vos vies. Alléluia. Le démontrer, parce que ce monde en a besoin. Et la joie, vous savez qu'elle est communicative. Vous avez remarqué, on peut regarder une vidéo ou un enfant rire. Moi, je suis en alerte. Hier, il y avait des sœurs là, qui rigolaient entre elles. Spontanément, je me suis tourné parce qu'en fait, ça communique. On a envie, la joie dans notre cœur. Et nous voulons garder la joie du salut. Alléluia. Il y a des parasites des fois. Parce qu'on peut même, il peut même y avoir de l'ingratitude. Oui, le Seigneur, voilà, m'a sauvé. Moi, je veux dire à mon âme. Ça aussi, on le retrouve dans la parole. Je veux dire à mon âme, réjouis-toi. Et quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Ceux qui sous-entendent, ceux qui sont autour, ils voient que je suis dans la joie. Alors, ce n'est pas quelque chose de forcé. C'est quelque chose qui vient spontanément. Alléluia. Alors oui, pour le Seigneur, c'est possible de rebâtir. Aux hommes, c'est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Vous savez, des fois, nous, on est ça peut arriver dans le spectaculaire, une guérison extraordinaire. On le voit dans les évangiles. Ce matin, tu peux recevoir, mon frère et ma sœur, toi qui es là, une guérison en étant sur ta chaise avec une visitation de la part du Seigneur. Alléluia, on le croit de tout notre cœur parce que ce n'est pas nous, c'est par sa puissance. Alléluia, que son nom soit béni. Alors ne surtout pas réduire Dieu à nos pensées. Des fois, on se fait un Dieu par rapport à ce que nous, on comprend, à nos capacités, même ne pas réduire Dieu à nos demandes, ne pas réduire Dieu à nos prières humaines. Il y a un exemple où le peuple est passé de l'impossible au possible. Ce verset que l'on dégaine, souvent pour s'encourager, nous-mêmes, encourager quelqu'un, vous savez, il y a des versets, on connaît les références, on peut les citer par cœur, mais il faut voir tout le contexte. Si je vous dis Jérémie chapitre 29, verset 11. Eh oui, hein. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Alléluia. Quand vous lisez les versets, surtout pas, il ne faut surtout pas faire isoler un verset. Parce qu'avec, vous savez, la parole de Dieu, on peut l'interpréter chacun comme bon nous semble. Mais en fait, il faut toujours regarder le contexte. Dans quel contexte ces paroles ont été apportées ? Le peuple avait été amené en exil, ils avaient été amenés en captivité à cause de leur désobéissance à Dieu. Et donc Dieu les avait avertis, si vous restez près de moi, vous lirez Deutéronome 28, 29, bénédiction, malédiction. Si vous restez près de moi, alors je serai avec vous, je serai constamment avec vous, je vous aiderai, je serai avec vous. Mais par contre, si vous m'abandonnez, alors forcément le Seigneur, il va se retirer parce que le Seigneur ne s'imposera jamais à qui que ce soit. C'est toujours librement qu'on le suit. Contexte donc, amené en captivité, exilé, et ce qui va se passer dans le cœur du peuple de Dieu, alors qu'ils sont exilés, il va y avoir des cœurs endurcis. Est-ce qu'il se peut que les cœurs s'endurcissent ? Bien évidemment. Que les cœurs peuvent s'endurcir, fermés et résistants aux appels de Dieu. Et on le voit partout. dans le livre de Jérémie, l'appel de Dieu à venir vers lui. Jérémie, un instrument de Dieu, il va parler au travers d'images, mais le peuple est endurci et il n'y a rien de plus terrible. Quand les cœurs sont endurcis et que la parole ne pénètre pas, il faut qu'il y ait au préalable dans nos cœurs une remise en question et de se dire, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Regardez ce qui est par rapport à ce Jérémie 29, verset 11, il est dit « Car je connais les projets que j'ai formés. » On s'aperçoit qu'il y a le pronom « je » qui est répété deux fois, ce qui sous-entend que c'est Dieu lui-même qui s'engage pour son peuple. « Je », c'est lui qui fait. Alors il envoie et se sert des hommes, des femmes, mais là c'était en l'occurrence un homme, donc un engagement personnel de la part de Dieu. Et la fondation de tout ça, c'était pour donner au peuple de l'espoir. Parce que quand il n'y a plus l'espoir dans une vie, c'est terrible. Il y en a même qui font l'acte fatidique de sauter la vie. C'est terrible d'en arriver là, parce que l'espoir est perdu. Le Seigneur, il sait ce qu'il fait, il nous a créés. Et quand il vient avec ce message, il vient pour nous encourager et pour nous mettre une fondation dans notre cœur, nous donner des paroles d'espoir. Et ça, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle vient pour donc encourager. Il dit, car je... Donc, c'est un engagement personnel. Les projets, Dieu allait réaliser ses projets pour son peuple. Alléluia. Et on le voit au travers de l'histoire que Dieu avait des projets. Et bon, après, à cause toujours, pareil, de la désobéissance, l'éloignement, l'endurcissement de cœur, le peuple se retire. Je crois encore et toujours que Dieu a des plans pour l'église de Sainte-Agne. Alléluia. Et ça nous met de l'espoir. Alors, c'est pas... nous qui allons le faire simplement, mais c'est on compte sur sa grâce et chaque partie, chaque pierre donc qui est là et qui désire œuvrer, alors le Seigneur donc nous met ensemble et nous sommes cette église triomphante parce que le Seigneur revient pour une église debout, une église sans défaut, une église sans tâche. Et nous voulons nous attacher à cela, à briller, parce que le Seigneur va nous faire cette déclaration extraordinaire. Hein. Il va dire, maintenant, vous êtes la lumière du monde. Waouh! Alors pour moi, ça a été extraordinaire, ces paroles. Alors que toute ma vie, on m'a dit que je n'étais pas une lumière. Je viens au Seigneur, et le Seigneur me dit, mais toi, tu es une lumière. Et la lumière, elle doit briller. Elle ne doit pas briller de mes connaissances, de mes capacités, surtout pas. Mais elle doit briller de la lumière de Christ qui, lui, est venu rallumer quelque chose en moi. Alléluia. Et désormais, je suis en connexion avec le Seigneur. Amen. Alors, soyez rayonnants, rayonnez de la lumière de Christ. Donc, oui, le Seigneur a des plans, il a des projets, projets de restauration. Et il va clarifier la situation afin que chacun puisse entendre et dire, ce sont des projets de paix. Ce sont des projets de paix que j'ai pour vous. La paix, c'est le bien-être. Aujourd'hui, vous avez remarqué combien le monde souffre de mal-être. Un jour, j'ai reçu, comme vous, hein, ces appels que l'on reçoit entre midi et deux, en vous disant, vous avez gagné ceci, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous savez, ces fameux appels. Puis quelqu'un qui m'appelle et me dit, voilà, je vous appelle, c'est pour, vous allez gagner un week-end de bien-être. Je lui dis, madame, je vous promets, je lui ai dit ça, hein. Je lui dis, madame, vous ne pouvez pas vous imaginer comment je vais bien. Alors ensuite, elle a rigolé. Hein, elle a rigolé. Parce qu'en fait, ce n'est pas commun hein, de dire aux gens, ben, en fait, nous, on est bien. Même si ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de difficultés. Des fois, on peut croire ça. Ben, le pasteur, lui, voilà, il se lève le matin, de suite, connecté avec le Seigneur. Il n'a pas de soucis, et il n'a pas de difficultés. C'est faux. Hein. On a les mêmes soucis, difficultés, matériels, les soucis familiaux. Mais en tout cas, on a appris une chose, c'est à déposer ces choses aux pieds du Seigneur afin que ce ne soit pas un handicap pour nos vies. Alléluia, parce que ces choses-là peuvent handicaper et alourdir la marche. Le Seigneur veut que nous ayons une marche légère. Alléluia, alors que le Seigneur nous aide. Des projets de paix, le bien-être. Et parfois, c'est difficile de croire parce qu'il y a des épreuves, les larmes. Et même la maladie, c'est dur de se réjouir alors qu'on est dans les difficultés. Regardez ce que nous dit Romains chapitre 14, verset 19. Romains 14, 19. Ainsi donc, et là il nous donne un peu la clé pour avoir cette paix. Ainsi donc, recherchons ceux qui contribuent à la paix et à l'édification mutuelle. Ici, on voit qu'il y a une recherche à faire qui nous incombe à chacun d'entre nous. C'est de rechercher ceux qui contribuent à la paix. Et ici, il nous en donne un peu, voilà, il y a quelques indices où il dit qui contribuent à la paix et à l'édification mutuelle. Alléluia. Au milieu du peuple de Dieu, je veux être un artisan de paix. Et pour être un artisan de paix, la plupart du temps, il faut que je laisse, moi, mes convictions, ce que je pense. Des fois, on peut discuter de certaines choses, avoir des opinions, c'est clair. Mais des fois, ça vous est arrivé aussi, sûrement, c'est que on sait que la situation, elle est tendue. Quelqu'un, on rentre dans une discussion, et pour être un artisan de paix, on se retire. La Bible nous dit que faute de bois, le feu, il s'éteint. Alors c'est difficile hein, quand une discussion embrasée. Mais nous voulons être des artisans de paix et ceux qui contribuent à la paix. On peut perdre la paix. Et les causes donc, de la perte de la paix, ça peut être l'épuisement. À un moment donné, on est épuisé physiquement. Alors quand c'est physiquement, du repos, ça peut repartir. Quelques vitamines, ça va repartir. Mais on peut être épuisé également spirituellement. Et ça, c'est terrible. Être épuisé spirituellement. Et quand on est épuisé spirituellement, ce que nous avons besoin, c'est de la nourriture qui nous vient d'en haut. Et cette nourriture, elle est là. C'est dans cette relation avec le Seigneur. La cause de la perte de la paix, ça peut être les peurs ou la peur du lendemain. La peur qui va produire des angoisses. Nous vivons, vous le savez, hein, nous vivons dans un pays angoissé. Des plus angoissés. Et l'angoisse, c'est terrible. Et c'est la peur qui occasionne cela. Ce qui peut être une cause de perte de paix, c'est la frustration à cause de l'injustice. S'il y a un sentiment avec lequel on a du mal donc à vivre, c'est que quand on subit de l'injustice. Et lui, l'apôtre Paul, il venait avec des messages fracassants. Il dit, mais vous ne subiriez pas un peu d'injustice pour la cause de Christ? Lui, le juste, il s'est rendu injuste pour chacun d'entre nous. Alléluia. Ça, c'est un message que l'on doit comprendre dans la vie donc communautaire, dans la vie de l'Église. Mais des fois, vivre des injustices, c'est clair que la chair va vouloir se débattre. Et on va lever le poing, c'est pas juste, c'est moi qui ai raison. Alors dans les discussions, quand ça commence comme ça, c'est difficile. Subir un peu d'injustice. Et puis évidemment, la perte de la paix. Souvent les causes, c'est le péché. Le péché qui est là, le mensonge, la colère, l'amertume, l'impureté sexuelle. Des choses qui sont... Au-devant de notre porte, avec lesquelles on doit rejeter ces choses-là. Quand on parle de mensonges, dans ma naïveté, moi je pensais, alors que les chrétiens ne mentaient pas. Puis je me suis aperçu, alors évidemment pas tous, mais que de temps en temps un petit mensonge, une déclaration qui n'est pas tout à fait exacte. C'est un demi-mensonge. Alors, est-ce qu'un demi-mensonge, ça compte pas, ou une demi-vérité? Et des fois, j'aimerais dire, en disant la vérité, ça peut nous éviter beaucoup de problèmes. Mais nous voulons rester honnêtes devant notre Seigneur et être juste et vrai. Une fois, j'avais dit à quelqu'un, on parlait d'une chose dans le travail que je faisais, et le gars me dit, ouais, si on te dit à quelle heure je suis arrivé, par rapport au transport, à quelle heure je suis arrivé, tu diras que je suis arrivé à telle heure. Ce n'était pas vrai. Et moi, je lui dis, tu sais, je suis croyant Et moi, je mens pas. Il me dit, bon, il est même pas un peu. Je dis, non. Je dis, tu peux être sûr que toutes les paroles que je te dis, c'est la vérité. Je ne mens pas. Il était étonné. Hein. Évidemment, ça étonne parce que le mensonge aujourd'hui, il n'y a qu'à voir hein, tous les problèmes qu'il peut y avoir. Que le Seigneur nous aide à être dans la vérité, à ne pas être dans la colère qui va produire de l'amertume. On peut se mettre en colère. Il y a une certaine colère que le Seigneur tolère. C'est la colère, justement, pour les âmes perdues, pour l'ennemi qui est en train de dévaster des familles entières à cause du péché. Et là, l'Église, il doit y avoir une sainte colère qui monte et intercéder dans les réunions de prière en disant « Seigneur, sauve ! Sauve, Seigneur, s'il te plaît ! Alléluia ! Amen !» Donc, projet de paix, ce sont les projets du Seigneur. Et il va spécifier, il va dire des projets de paix et non de malheur. Pas de malheur. Donc, c'est un terme, vous le lirez, c'est un terme récurrent dans le livre de Jérémie. Le Seigneur ne veut pas notre malheur, il veut notre bonheur à chacun d'entre nous. Alléluia. Le psaume 34, verset 20, que l'on connaît bien. Le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Amen et amen. Donc, non pas des projets de malheur. Et là, il dit, ben, pour vous donner un avenir, s'il y a ces bases-là dans notre cœur, va nous donner de l'avenir. Dieu a déjà tout donné pour nous préparer à un avenir meilleur. Dieu nous a donné, premièrement, son Fils. Dieu nous a donné son Saint-Esprit. Dieu nous a donné sa parole. Dieu nous a donné son amour, nous sommes au bénéfice de son amour. Dieu nous a donné sa présence, elle est bonne la présence de notre Dieu. Amen. Dieu nous a donné son Église. Et l'ennemi le sait très bien, c'est pour ça qu'il dévaste les Églises. J'ai pu l'expérimenter, hein, discuter tout à l'heure avec certains, c'est toujours le même cas de figure hein, qu'on retrouve dans les Églises. À un moment donné, ça prend, c'est là, gagne des âmes, une Église qui avance, et puis il va y avoir de l'ivraie qui est jetée. Et ensuite, ben, on peut se retrouver avec des divisions, des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Par contre, à un moment donné, on peut se séparer. Ça, c'est ma façon de voir les choses, parce que je le trouve dans la parole de Dieu. On peut se séparer avec une parole de Dieu pour continuer l'œuvre. Mais ça va se faire dans la paix. Jamais dans le déchirement. Évidemment, on le comprend. Dieu nous a donné son Église. Alléluia. Elle est belle, l'Église de Christ. Surtout, ne pas dévaloriser l'Église. Et l'Église, on l'a vu, hein, ces deux derniers dimanches, ce sont les pierres vivantes. Alléluia. Et que nous ne puissions pas nous laisser déstabiliser, mais continuer de vivre cette vie d'Église. Vous savez que le Seigneur l'a prévu comme cela. Que nous puissions nous retrouver ensemble pour pouvoir être un terreau fertile pour grandir dans notre marche avec lui. Alléluia. Amen. Donc, par rapport à son Église qui nous a donné le Seigneur, ça nous montre qu'on n'est pas seul. On peut vivre la vie chrétienne également en communauté. Nous faisons partie de la famille de Dieu. Alléluia. C'est pour ça qu'on s'appelle frères et sœurs. Hein. Certains sont étonnés, hein, mais parce qu'en fait, c'est la vérité. Donc, il dit, pour vous donner un avenir et vous donner de l'espérance, alléluia. Le monde dit, l'espoir fait vivre. Vous l'avez déjà entendu, hein, l'espoir fait vivre. Mais il y a mieux que ce que le monde offre. C'est la Bible déclare, son espoir fait vivre. Et là, c'est la différence. C'est son espoir placé en nous qui nous fait vivre. Amen. On revient à Jérémie 31, 17. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. Et là, peut-être, ça fait partie aussi de ces choses qu'on a enfouies, où pour le moment, vous voyez, au plus vous priez pour vos enfants, au plus vous avez la sensation qu'ils s'éloignent de Dieu. Dieu nous fait une promesse et nous voulons rester fidèle. Celui qui se tient là, debout devant vous ce matin, mon père, mon papa, à un moment donné, il a reçu une parole de Dieu en disant, un jour, ton fils servira le Seigneur. » Alors, comme tout papa, il s'est dit, ça va arriver demain. Ça a duré 22 ans. Et au plus il priait pour moi, au plus j'étais dans mon péché, mais il y a eu, à un moment donné, le Seigneur m'a interpellé de façon extraordinaire, alléluia. Pourquoi je dis ça? Parce que des fois, 22 ans, ça fait long. Hein, je vous promets, si vous allez voir mon père, alors, est-ce que tu as douté? Bien, il va vous dire, oui, j'ai douté. Parce que le temps, il fait une œuvre dans notre vie de déstabilisation, en disant, mais Dieu ne te l'a pas dit, c'est toi, tu t'es inventé, tu t'es fait tout un programme, tout un film. En tout cas, il s'est ressaisi, il a continué, il a redoublé au niveau de la prière. Puis à un moment donné, le Seigneur m'a interpellé. Alléluia. C'est ça l'espérance. Ne perdez jamais cette espérance de voir vos bien-aimés sauvés. Alléluia. Et ça, on le fait mais dans les réunions que le Seigneur nous donne l'opportunité d'être. Parce que vous savez que le Seigneur bénit quand même aussi le mardi soir à la prière. Alléluia. Et pas que le dimanche. Ah oui, je sais que nos plannings, ils sont chargés. Mais des fois, ça j'ai plus le... Bon, je le dis maintenant parce que encore, voilà, on est au début, hein, on fait connaissance. Donc, c'est sans viser qui que ce soit. Des fois, pour les choses du monde, on va faire des efforts. Puis après, pour les choses de Dieu, oui, mais le transport, il y a ceci, il y a cela, il y a certaines choses. On va invoquer, on va dire, des excuses. Mais moi, je crois que si je peux faire quelque chose, un effort, pour les choses séculières, les choses du monde, je dois redoubler d'efforts pour la gloire de mon Seigneur, qui, lui, a redoublé d'efforts à la croix du calvaire en donnant sa vie pour que moi, je sois sauvé. Alléluia. Alors, je sais que ça, c'est pas trop populaire, hein. Aujourd'hui, il ne faut pas trop chatouiller à ce niveau, chacun à ce planning. Mais moi, j'ai vu dans les églises où je suis passé, c'est que des frères et des sœurs qui se sont résolus à se dire, à partir d'aujourd'hui, je veux être là quand le peuple se réunit, j'ai vu une progression dans leur vie. Ils ont décollé finalement. Parce que c'est là, dans ces réunions où il semblerait qu'il ne se passe rien, où on se retrouve qu'à une poignée. Moi, je bénis le Seigneur, hein, parce que voilà, ces réunions-là, elles sont tellement importantes. Évidemment, que personne ne se sente offusqué, c'est dans la mesure du possible. On le comprend tout à fait. Hein, donc, que personne ne se sente accusé de quoi que ce soit. Mais faites les efforts nécessaires pour être là. Amen. Et le Seigneur va donner de l'espérance pour nos enfants. Alléluia. Mais il y a une part qui nous incombe. Parce que souvent, on s'arrête à Jérémie 29, 11. Je vais vous faire une déclaration extraordinaire. Est-ce que vous savez qu'après Jérémie 29, 11, il y a Jérémie 29, 12? Je vous l'avais dit que c'était extraordinaire. Regardez, vous m'invoquerez, promesse du Seigneur, et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Alléluia, vous m'invoquerez, vous appellerez, c'est s'écrier, c'est proclamer, c'est faire appel à notre Seigneur. Vous partirez, partir c'est quitter notre situation pour entrer dans une autre qui est meilleure et c'est là où le Seigneur veut nous amener. Et vous me prierez, la prière est la clé qui ouvre toutes les portes. Alléluia, et le Seigneur nous attend à l'heure de la prière. Et le résultat de tout cela, verset 12, je vous exaucerai. Ça c'est la promesse de Dieu. L'importance de choisir sa destinée. Nous sommes confrontés là à prendre une décision et à dire, mais Seigneur, il y avait des choses que j'avais laissées dans mon cœur en me disant, ça y est, maintenant la situation, c'est impossible. Et le Seigneur, au travers de ce message tout simple, veut ranimer la foi dans votre cœur afin qu'on puisse prendre cette décision et dire, Seigneur, je veux encore compter sur ta grâce. Je veux encore compter sur tes bontés. Regardez, c'est les derniers versets, toujours dans Jérémie, Jérémie 32, verset 38. Ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Je leur donnerai un même cœur et une même voix, afin qu'ils me craignent toujours pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien. Et je mettrai ma crainte dans leur cœur. afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Je prendrai plaisir à leur faire du bien. » J'aime beaucoup. Hein. « Je prendrai plaisir à leur faire du bien et je les planterai véritablement dans ce pays de tout mon cœur et de toute mon âme. » Alléluia. Amen. On va prier le Seigneur, on va demander la grâce à notre Dieu que des décisions soient prises ce matin dans nos cœurs. Bien, Seigneur, tu as ressuscité, Seigneur, un appel. Tu as ressuscité, Seigneur, quelque chose qui était mort, que j'avais enfoui, Seigneur. Que tu puisses, Seigneur, que je puisse voir ta gloire dans ma vie. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Seigneur, nous bénissons, nous glorifions ton nom et te remercions encore parce que ce matin, Seigneur mon Dieu, tu as voulu ranimer, Seigneur mon Dieu, la flamme dans notre cœur, cette flamme de foi, Seigneur mon Dieu, pour les choses que nous voyons maintenant qui sont impossibles. Mais avec toi, Seigneur, tout devient possible. Alors, nous voulons continuer à placer notre foi en toi, Seigneur Jésus-Christ. Je veux te prier pour mon frère, ma sœur, nos bien-aimés qui sont là ce matin. Seigneur, dans les situations qui sont les leurs, toi, tu les connais parfaitement. Seigneur, interviens, Seigneur, maintenant, alléluia, et qu'ils puissent voir que toi, tu es fidèle, que tu es grand, que tu n'es pas un homme pour revenir sur ta parole, mais qu'il y a un temps, Seigneur, où tu vas agir. Merci de renouveler les forces de chacun, que nous sortions de ce lieu, Seigneur, pleinement visité par ta grâce. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous avons prié et nous croyons que nos prières sont entendues de toi. Celles que nous verbalisons maintenant et celles qui sont au fond de notre cœur. Seigneur, tu bénis, Seigneur, chacun d'entre nous, afin que tout cela serve à la gloire de ton nom. À toi seul soit toute la gloire. Merci, ô notre Dieu. Amen et amen. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Amen.